France Inter, il est 8h. Et c'est le journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la Marseillaise et la levée du drapeau au réveil. Programme des tout premiers participants du service national universel. Nous sommes avec eux dans un instant en Normandie. Et puis avec les étudiants du bac aussi qui commencent tout juste à plancher sur la philo. En plein mouvement de grève des professeurs qui doivent surveiller les preuves. On va voir comment ça se passe dans un lycée parisien. À la une également, 15 noms donnés aujourd'hui par la République en marche, ceux des 15 premiers candidats investis pour les municipales, ce qui sera riche d'enseignements. Le début du salon du Bourget, sous le signe de l'urgence climatique. Et votre invité à 8h20, qui connaît le sujet, Nicolas.
Ah oui, l'ancienne ministre de l'Environnement, actuelle ambassadrice des pôles, Ségolène Royal, dans le grand entretien de la matinale. Dialoguez avec elle, vos questions, vos réactions, 01 45 24 7000.
Dans ce journal, nous serons également dans les vignes d'Apremont, en Savoie, ravagées par la grève samedi sur un pont entre le Venezuela et la Colombie où des centaines de milliers de Vénézuéliens fuient de nouveau depuis la semaine dernière. Et puis à Nice qui fête les 100 ans de ses mythiques studios de cinéma, les studios de la Victorine.
France Inter.
Il est peu de rites initiatiques dans la vie des jeunes gens du 21e siècle. Le bac en est un, l'épreuve de philo commence à l'instant, on va y venir. Mais tous les jeunes ne passent pas le bac alors qu'ils seront tous censés, dans les années qui viennent, participer au service national universel. Rite voulu par Emmanuel Macron, c'était dans son programme. 12 jours de collectivité pour les 15-16 ans, encadrés par des militaires et des éducateurs. 2000 premiers volontaires ont pris leur quartier hier soir dans des internats ou des centres de vacances, des lycéens, des apprentis, des décrocheurs, chacun dans un autre département que le sien. Bonjour Claire Chaudière. Vous êtes Claire dans un centre d'accueil d'Évreux dans l'Eure où la Marseillaise a retenti il y a une demi-heure. Claire, vous êtes là ?
Oui, 150 jeunes au total ont entonné ici l'hymne national réuni dehors sous un rayon de soleil du petit matin avant même de prendre leur petit déjeuner, tous vêtus d'un uniforme bleu marine, casquette vissée sur la tête, avant d'écouter le discours d'élus et de représentants de l'État venus lancer cette toute première phase expérimentale de 12 jours du service national universel. Des jeunes arrivés donc hier soir des 13 départements préfigurateurs du dispositif et qu'un important programme attendant les heures, les jours qui viennent. Valérie Bonne dirige ce centre SNU d'Évreux.
Nous allons aller au mémorial de Caen et visiter les plages du débarquement. Il y a un module d'autodéfense, visite à Giverny, séquence importante sur la défense nationale. Les jeunes en fait sont répartis en maisonnées, c'est-à-dire en groupes de 8 à 12 jeunes. L'idée c'est d'apprendre aux jeunes à rencontrer d'autres jeunes, à voir la diversité sociale, la diversité territoriale.
Et d'être sensibilisés, éveillés à la notion d'engagement, qu'ils soient associés ou militaire, objectif aussi pour les encadrants, faire la preuve de la pertinence d'un dispositif qui suscite encore le scepticisme de l'ensemble des organisations lycéennes. À Évreux, Claire Chaudière, France Inter.
Merci Claire. Le SNU qui a vocation à être généralisé d'ici 2027, suivi par 15 jours de mission d'intérêt général dans des associations ou dans des maisons de retraite par exemple.
Eux sont un peu plus âgés, 18 ans pour la plupart.
Qui planchent sur la première épreuve du bac 2019. Les sujets de philo ont été distribués il y a quelques minutes à 743 000 candidats du bac général et technologique. Avec une incertitude cette année, y a-t-il assez de profs pour surveiller les épreuves contre la réforme du bac dans 2 ans. Une partie de leurs syndicats les ont appelés à la grève. Sonia Princey, vous êtes devant un lycée du 10e arrondissement de Paris. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Alors le mouvement de grève partait pour être suivi au lycée Colbert. La moitié des enseignants grévistes. Le ministre de l'Éducation, il y a quelques minutes sur France Inter, nous a expliqué que les épreuves se passeraient normalement. Alors à 8h05, Sonia, question, l'épreuve de philo a-t-elle commencé chez vous ?
Oui, et tout à fait normalement. Les candidats viennent de découvrir il y a quelques minutes les sujets. Tout est silencieux ici. Mais les élèves ont dû quand même attendre devant le lycée jusqu'à 8h moins le quart. La proviseure voulait être sûre d'avoir le nombre de surveillants suffisant avant de les faire rentrer. C'est le cas. Mais heureusement qu'elle avait convoqué 30% de personnel en plus, car les grévistes sont nombreux ici dans ce lycée. Ils protestent contre la réforme du bac. Et même s'ils ne seront plus concernés, certains élèves les soutiennent.
Je trouve que c'est tout à fait justifié de faire une grève à ce sujet-là. Je trouve que c'est injuste en fait de faire un bac individualisé comme ça. En fait, les bacs vont plus se valoir. ça vient très très élitiste. Donc si vous sortez d'une très très bonne école, bah vous allez avoir un bac qui va valoir beaucoup, alors que si vous sortez de celui-ci là, c'est un peu compliqué de trouver du taf après, vous voyez. C'est qu'une épreuve, mais l'avenir de demain, bah c'est plus important quand même, je trouve.
Et des candidats ont même eu un espoir en attendant devant le lycée.
Bah ça serait bien qu'il la fasse. Il y a pas de souci, moi ça m'arrangerait, hein. Bah comme ça pas de bac de philo pour l'instant, donc moi ça m'arrange. Bah du coup je continuerai à réviser plutôt que ça s'arrange. J'espère qu'il n'y aura pas assez de surveillants.
J'espère qu'ils vont mettre des vins sur les épreuves que j'aurais loupées, parce qu'ils comptent mettre des vins aux gens qui passent les examens. Du coup, moi, je vais bien avoir un vin.
Alors, les élèves, vous voyez, rêvent beaucoup. Et même si des professeurs parlent effectivement de faire une grève de la correction, le 20 sur 20, ce n'est quand même pas ce qui se profile.
Et c'est beau de rêver quand on a 18 ans. Merci Sonia Princey, en direct du lycée Colbert à Paris avec Yves Lehors. C'est rendez-vous un peu plus tard dans la matinée pour connaître les sujets de dissertation et de textes à commenter. A priori, pas de centre d'examen trop endommagé par la grêle en Rhône-Alpes, mais quelques écoles fermées ce matin après la violence des orages de samedi. Toitures éventrées, pare-brise en miettes, ceux qui ont subi ce déluge de grêlons ne l'oublieront pas, surtout dans la Drôme et dans l'Isère où les agriculteurs ont perdu 80 à 100% de leur récolte selon leur ministre. Plus au nord, les vignobles de Savoie ont été ravagés, 300 hectares d'Apremont détruits et pour les quelques pieds sauvés, les raisins seront minuscules. La saison est foutue, la suivante est compromise, constat de Yannick Huchet au micro de Sévigne, au milieu de Sévigne.
On voit bien, regardez là. Il y a des impacts sur la totalité des branches. C'est pour ça aussi que ça impacte aussi la récolte prochaine, parce que la récolte prochaine va être conditionnée par les bois qu'on va garder à la taille. Et là, on voit qu'on on peut plus rien garder. C'est tout cassé, c'est tout matraqué, c'est incroyable, quoi. Puis là, on voit que c'est assez récent, donc on voit qu'il y a encore un peu de verdure. Mais là, dans quelques jours, ça va devenir marron, noir, ça va tout sécher. Ça va être un spectacle désolant, quoi. Je sais pas ce qu'on va faire. Honnêtement, j'ai pas de solution. Puis je pense qu'il y en a pas. Donc, on est dans une situation qui va être très très compliquée pour nos exploitations, hein, parce que économiquement là, c'est une catastrophe, quoi.
Voilà, Yannick Huchet, viticulteur, avec Sarah Gillemand de France Bleu Pays de Savoie. Le ministre de l'Agriculture a promis de déclencher l'état de catastrophe naturelle en ce début de semaine. Les parents d'Alexia Daval à Grès-la-Ville cette nuit sur les lieux du crime de leur fille pour la reconstitution du meurtre. Son mari, Jonathan Daval, qui a avoué l'avoir tué, a dû refaire les gestes de la nuit du 27 au 28 octobre 2017 avant de se rendre dans le bois dans lequel le corps a été retrouvé et qu'il nie avoir tenté de carboniser. Ils sont morts bien après les attentats de Nice ou du Bataclan, mais ils pourraient être reconnus comme victimes. Leur famille le demande. Pour celle de Guillaume Valette, rescapé du Bataclan qui s'est suicidé fin 2017, les juges d'instruction l'ont reconnu. L'avocate de la famille de Tarr, Mégerie, veut la même reconnaissance pour cet homme mort la semaine dernière, de chagrin, dit-elle, après avoir perdu son fils dans l'attentat de la promenade des Anglais. Maître Cathy Guittard avec Béatrice Duguay.
La première des choses, du tout premier rendez-vous, il m'a dit, j'ai des frissons au moment où je vous le déclare, je suis mort avec eux. Ça m'a marqué à jamais et c'est une évidence. Cet homme dévasté, rongé par la douleur, qui suivait un traitement médical antidépresseur très lourd, qui le perturbait, des cauchemars, des nausées, des réactions physiques et psychologiques telles que d'entrée, j'ai senti en lui une victime non pas collatérale. Je suis convaincue, assurée viscéralement du lien direct qui est exigé de par la loi pour reconnaître Tahar Mégerie comme la 87e victime de l'attentat de Nice, même situation que pour Guillaume.
Une patrouille de soldats menacée par un homme armé d'un couteau hier dans l'enceinte de l'hôpital militaire de Lyon. Un soldat lui a tiré dans la jambe après sommation. La police judiciaire a été saisie de l'enquête en lien avec le parquet de Paris chargé des affaires terroristes.
Il est 8h10, ça y est Florence, les grandes manœuvres sont lancées pour les municipales.
Mais oui, La République En Marche dévoilera aujourd'hui les noms des 15 premiers candidats investis pour l'élection de mars 2020 qui en diront long, Karine Bécard, sur la stratégie d'Emmanuel Macron.
Même tactique qu'au printemps 2017, quand le candidat Macron avait dévoilé ses 14 premiers investis aux élections législatives. Aujourd'hui, 15 noms révéleront ce que la Macronie veut faire pour ce scrutin municipal. D'abord, sanctionner ces maires de droite qui se seraient faussement montrés compatibles avec le macronisme. Voilà pourquoi le sort de la ville de Reims devrait être réglé dès ce midi. Le maire sortant, Arnaud Robinet, à LR, sera a priori concurrencé par un candidat de La République En Marche, l'avocat cas Gérard Chemla. Ensuite, il faudra promouvoir des femmes. La députée de la majorité, Cécile Muscotti, devrait être investie à Toulon, sans oublier de remercier les marcheurs de la première heure, comme très probablement à Cavaillon, avec un banquier d'affaires face au Rassemblement national. Des villes donc essentiellement, mais aussi Le Bourdin, 400 habitants, pour montrer que La République En Marche s'intéresse aussi à la ruralité. Restent les alliances avec l'un des 72 maires, par exemple, signataire d'une récente tribune de soutien à Emmanuel Macron. Oui, mais prudence, avant de l'annoncer, l'AREM veut pouvoir vérifier toutes ses anciennes déclarations.
Et à Paris, la commission d'investiture sera chargée de choisir parmi les nombreux candidats de la majorité. Hier, 4 d'entre eux ont demandé une consultation citoyenne face à l'ex-porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, dont il redoute une nomination cousue de fil blanc. Et puis hier, c'est le Rassemblement National qui a lancé sa campagne, marquée par l'appel de Marine Le Pen aux élus LR et aux anti-Macron. Il incarnera les combats aériens du futur, le SCAF officiellement lancé par Emmanuel Macron lors de l'inauguration du Salon du Bourget ce matin. C'est un gros avion à l'état de maquette pour l'instant, fabriqué par la France, l'Allemagne et l'Espagne. Objectif, Nathalie Hernandez, donner à l'Europe son autonomie vis-à-vis des Américains.
Le SCAF sera une fois et demie plus imposant que l'actuel chasseur Rafale. Ce système doit être composé d'un avion associé à des drones volant en essaim. Il sera connecté à d'autres appareils, des satellites et des systèmes de combat terrestres et navals. En même temps, 2 textes seront signés aujourd'hui, ce qui engagera formellement les 3 pays dans ce programme. Pour l'instant, la France et l'Allemagne partagent à égalité le financement. On ne sait pas encore à quelle hauteur l'Espagne participera. La première tranche d'études a été lancée au début de l'année avec 65 millions d'euros. La seconde démarra d'ici quelques semaines avec 150 millions débloqués. L'objectif est de présenter un premier vol de démonstrateur en 2026. L'entrée en service du SCAF doit se faire en 2040. Pour la France, qui a le leadership du programme, la mission du SCAF est la dissuasion. Le système pourra avoir un pilote embarqué ou bien un guidage à distance. Mais le SCAF, doté d'intelligence artificielle, ne décidera pas seul de ses tirs, selon le ministère des Armées. Il y aura toujours un contrôle humain.
À Hong Kong, on ne l'avait pas entendu depuis le début de la contestation contre le pouvoir et son projet sur les extraditions vers la Chine. Et pour cause, le leader étudiant Joshua Wong était en prison depuis la mi-mai, enfermé pour sa participation à la révolte de 2014. Libéré il y a quelques heures, il appelle lui aussi à la démission de Carrie Lam, la chef de l'exécutif local, qui s'est excusée de la situation hier après une manifestation monstre et malgré la suspension la veille de son projet d'extradition. Au Venezuela, ça fait une semaine que la frontière entre la Colombie, avec la Colombie, est rouverte sur ordre de Nicolas Maduro. Seuls les ponts piétons sont concernés. Mais des milliers, des centaines de milliers de Vénézuéliens s'y sont rués. 35 à 50 000 chaque jour. Reportage sur place, signé Benjamin Delisle.
Le soleil est à peine levé que déjà des milliers de personnes se massent à l'entrée du pont Simón Bolívar, côté vénézuélien. Denis vend des billets de bus vers le centre de la Colombie, le Pérou, l'Équateur. Il tente de repérer ceux dont la valise est pleine, ceux qui ne reviendront pas au Venezuela.
L'immigration, c'est tous les jours. Ça augmente parce qu'avant, c'était seulement les hommes seuls, maintenant ce sont les enfants, les femmes qui partent, les familles, les vieux.
Selon les autorités colombiennes, ils sont 5000 à émigrer chaque jour légalement, beaucoup plus si l'on compte les clandestins, selon Denis.
La grande majorité traverse sans papier car ils n'arrivent pas à obtenir leur passeport.
Cela font appel à des passeurs comme Frankie pour traverser la rivière entre les deux pays et éviter les nombreux groupes criminels qui infestent la zone.
Désormais, je fais passer plus de personnes que de marchandises. Les gens qui n'ont pas de papier n'ont pas le choix.
De l'autre côté, José et sa famille ont enfin réussi à passer. Derrière la fatigue, on lit sur le visage du jeune papa un grand soulagement.
Grâce à Dieu, nous sommes enfin en Colombie. On va aller de l'avant avec ma famille. Maintenant qu'on a passé la frontière, on veut aller jusqu'en Équateur.
Comme lui, ils sont déjà plus de 3 millions à avoir quitté le pays depuis 2015, selon l'ONU. Ils pourraient être 5 millions à la fin de l'année. San Antonio, Benjamin Delisle, RFI pour France Inter.
France-Nigeria ce soir à 21h à Rennes. Dernier match de poule de ce mondial sans beaucoup d'enjeux pour les Bleus puisqu'elles sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, ce qui ne nous empêchera pas de les regarder. Enfin, si je vous dis cinéma et Côte d'Azur, Nicolas, vous me répondez quoi ?
Cannes.
Bah oui, Cannes. Et ce serait oublié Nice.
Ah.
Eh oui, Nice et ses mythiques studios de la Victorine qui fêtent cette année leurs 100 ans. Une histoire qui est l'objet d'une exposition au musée Masséna. Ça s'appelle Cinémapolis. Et c'est une des expos de la Biennale des Arts de Nice qu'a vu Isabelle Pasquier.
Cary Grant and this year's Academy Award winner Grace Kelly, filmed on the beautiful French Riviera.
C'était en 54 à Nice, Hitchcock tourne La main au collet. À cette époque, Nice se la joue Cinecittà avec des décors naturels qui ont toujours fait fantasmer le cinéma. En 1897, les frères Lumière y réalisent sans doute le tout premier travelling de l'histoire. C'est l'un des documents fascinants que présente l'exposition Cinémapolis réalisée par Jean-Jacques Ayagon.
Si les cinéastes sont venus à Nice, c'est pour la même raison que d'autres cinéastes allant en Californie, à Hollywood, ont venu chercher ici la qualité de la lumière. Les premiers studios sont des studios Pathé, des studios Gaumont. Et en 1919, c'est la création du plus grand studio de Nice, le studio de la Victorine, dont on célèbre cette année le centenaire. Donc une histoire vieille de plus d'un siècle et qui a produit une filmographie tout à fait exceptionnelle de plus de 1500 films.
La liste des films cultes tournés à Nice est vertigineuse. Les visiteurs du soir, Les enfants du paradis de Marcel Carné, tournés dans les studios de la Victorine. Et c'est dans ces magnifiques studios que seront également tournés Le Mystère Picasso, Fanfan la Tulipe, Mon oncle de Tati, La nuit américaine de Truffaut ou encore Et Dieu créa la femme avec une jeune actrice qui met le feu à la pellicule, Brigitte Bardot.
Bon, je vous ai parlé de la petite danse sur le bureau du studio, Nicolas.
À la radio, ça a un peu de sens.
Pour vous dire que Nice continue à fêter le cinéma avec plusieurs expositions jusqu'au mois de janvier.
Merci beaucoup, Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et c'est le début, Marie-Pierre, d'un pic de chaleur.
Oui, jusqu'à mercredi, car ensuite les orages seront de retour et une nouvelle baisse des températures. En attendant cet après-midi, on pourra laisser tomber la veste dont on aura eu besoin ce matin, car il ne fait pas plus de 7 degrés dans la Creuse ou en Haute-Loire, alors qu'il fait déjà 21 vers la Venise du Languedoc. Si le ciel est bleu ce matin, pratiquement sur toutes les régions, on aura encore près de la Manche des cumulus, quelques entrées maritimes également en Bretagne, mais aussi sur le littoral de la Côte d'Azur et de la Corse.
Et l'après-midi estival.
Avec tous les ingrédients, Nicolas, un ciel bleu pratiquement partout, avec quelques cumulus aussi qui vont se balader près du nord et près de la Manche et jouer un peu à cache-cache avec le soleil, mais ça n'enlèvera pas l'impression de beau temps. En fin de journée aussi sur les reliefs comme en été, une averse sera possible sur les Pyrénées, un orage isolé pourrait éclater des Alpes au Jura, avec un mercure donc en hausse, donnant des températures estivales qui vont mettre fin quand même à une série de 12 jours consécutifs plus frais que la normale. En France, comptez 22 à Lorient, 24 au Tréport, 25 à Lille et à Rennes pour le match, 26 à Strasbourg, comptez 27 à Nancy, à Nevers, à Nantes, à Paris, 31 à Toulouse, 32 à Montgiscard en Haute-Garonne et on atteindra les 34 dans l'Hérault.